Voilà, donc nous commençons ce cours qui est, je ne sais plus lequel, mais enfin ça commence à faire un petit nombre de cours et de conférences depuis le début de l'année. Et je ne redonne pas à nouveau la bibliographie parce que celle que j'ai donnée la dernière fois reste valable. Il n'y a rien de nouveau. Je ne redonne pas mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail parce qu'elles sont valables également. Et donc je rappelle que les personnes qui veulent intervenir pour corriger ou redresser ou soutenir ou compléter nos propos peuvent le faire par téléphone parce que ça s'affiche, les SMS s'affichent sur l'appareil que j'ai ici. Voilà. Et donc, ces cours, ces conférences, moi personnellement, je trouve que c'est très difficile. Bien sûr, c'est mon travail de le faire et avec la bénédiction de Mgr Joseph, d'essayer d'apporter ma contribution à la formation permanente du clergé et des fidèles. Mais ce sujet-là qui s'impose concernant la méthode théologique ou la conception de la théologie des saints-pères et la conception de la connaissance aussi, c'est quand même très difficile. C'est quand même très difficile et quelquefois je me dis que c'est un petit peu au-dessus de mes compétences, manquer un petit peu de discernement, mais enfin il fallait quand même proposer quelque chose. Et en tout cas, moi ce qui m'intéressait, je le disais pour les personnes qu'on voit pour la première fois, mais ce qui m'intéressait dès le début, c'est qu'on parle de Dieu. Ça, c'était parce que je dis souvent dans l'Église, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas beaucoup de Dieu. On parle de nous-mêmes. Bon, mais parlons de Dieu, et c'est ça qui est quand même très intéressant. Parce que les anges, par exemple, de quoi est-ce qu'ils parlent entre eux? Je pense qu'ils parlent principalement de Dieu. En revanche, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ils ne parlent pas de Dieu, parce qu'ils sont Dieu. Ils parlent de l'homme. Hein. Ça, c'est très beau. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, ou bien même dans le livre de la Genèse. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu, à l'intérieur de lui-même, dans ce dialogue interne qui a lieu dans le mystère de la Trinité, le Père qui parle au Fils, le Fils qui parle au Père, l'Esprit qui écoute et qui inspire l'un et l'autre et qui est le témoin de la conversation du Père et du Fils, le sujet essentiel de la conversation divine, c'est l'homme, c'est l'être humain. C'est extraordinaire de penser ça. Qu'une telle préoccupation de la Trinité pour sa créature, et particulièrement pour l'être humain, que c'est, oui, c'est l'essentiel de son discours. C'est-à-dire, de quoi voulez-vous qu'il parle d'autre, Dieu? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se disent d'autre que de parler de l'homme, à part parler de lui-même tout le temps comme ça, c'est pas possible. Voyez. Mais il peut, on voit par les textes de la Sainte Écriture, on voit que Dieu peut, à l'intérieur de lui-même, avoir cette glorification réciproque des personnes divines, ça certainement. Chaque personne divine glorifiant l'autre. Donc il y a quand même un discours intérieur qui consiste essentiellement à se glorifier les uns les autres. Alors que quand la divine Trinité parle de l'homme, elle exprime une préoccupation et un souci. Et principalement le souci de la Trinité, comme vous savez, c'est ce que a dit le Christ dans l'Évangile selon saint Jean, le souci principal de la Trinité, c'est que l'être humain ait part à sa joie. Et ça, le grand souci divin, que l'être humain puisse avoir part à la joie divine. Alors, donc tout ceci introduit un petit peu notre sujet qui est la question de la connaissance. Franchement, je pense que le thème de la connaissance de Dieu est le thème porteur de l'ensemble de l'Écriture sainte et de l'ensemble de la tradition chrétienne. Je le dis en insistant un petit peu parce que, vous savez, souvent on présente le christianisme, on dit c'est une religion, on dit c'est une morale, on dit... Bon, il y a beaucoup de façons de parler du christianisme qui ne sont pas toujours très satisfaisantes. Mais l'idée que l'enjeu principal de la foi chrétienne, c'est la connaissance de Dieu, il me semble que quelquefois on oublie de le dire. Et c'est pour ça que le sujet que nous avons, donc concerne la théologie et la théorie de la connaissance, la théorie chrétienne de la connaissance, la théorie patristique de la connaissance surtout. Je crois que c'est vraiment très important. Vraiment très important pour nos contemporains. Justement, rappeler à nos contemporains que nous sommes chrétiens parce que nous connaissons Dieu et que nous voulons le connaître plus. Comment vous connaissez Dieu? Mais oui, nous connaissons Dieu. Mais comment ça vous connaissez Dieu? Eh bien, ça, c'est tout le sujet, justement. Et que nous parlons de Dieu parce que nous le connaissons directement ou indirectement, un peu, beaucoup, ou passionnément, mais nous le connaissons. Et nous le connaîtrons de plus en plus jusqu'à la plénitude. Et c'est ça, la vie. C'est ça, la vie, c'est connaître Dieu. Alors ça, c'est très, très intéressant quand on commence à pouvoir parler de cette façon-là, parce que même nos contemporains sont surpris qu'on dise ça. Ils s'attendaient peut-être à autre chose. Alors, j'aurais voulu reprendre, en regardant l'heure quand même, revenir quand même un petit peu, je ne le fais pas habituellement, mais j'avais dû m'interrompre, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce qui avait été dit l'autre fois. Vous vous rappelez que le thème qui était le nôtre la dernière fois, c'était le thème de l'incompréhensibilité divine, l'incompréhensibilité de Dieu, et donc j'avais développé ça de mon mieux, suivant mes forces, bon, ou peut-être un peu moins bien que j'aurais pu, peut-être en dessous de mes forces d'ailleurs. C'est une excuse de dire ça, j'ai fait selon mes forces. Moi non, en ce qui me concerne, souvent je me rends compte que je n'ai pas fait selon mes forces. J'ai fait beaucoup moins que ce que j'aurais pu faire. Mais donc ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et j'étais arrivé donc, à cette idée que c'est les pères qui disent ça, Saint Grégoire de Nice en particulier que j'avais cité, ce qu'on appelle l'agnosia, l'agnosie, je ne sais pas si c'est très beau en français. L'agnosie est le nom donné qu'on peut donner à la connaissance de Dieu, cette docte ignorance. Donc l'ignorance, c'est la connaissance. Alors, donc, ça aussi, c'est incompréhensible à l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez dire, vous les chrétiens, que ne pas connaître, c'est connaître? Bon, nous sommes là justement pour nous expliquer de cela. La dernière fois, on avait bien expliqué que c'est un peu la différence entre science et théologie. C'est-à-dire que la démarche théologique est une démarche qui procède, comment dire, en acceptant l'incompréhensibilité divine et en allant sur le chemin de l'union par l'émerveillement, par la louange, par la doxologie. Et donc, ce qui est assez différent, au fond, d'une démarche de type scientifique, qui, elle, procède par établissement de la vérité par des faits. Je trouve qu'il y a quand même une similitude. J'avais posé la question une fois à un de mes collègues qui n'a pas eu le temps de me répondre. Il me semble qu'il y a quelque chose quand même de scientifique dans la connaissance de Dieu telle qu'on l'a dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle est expérimentale. Et ce qui est expérimental a un caractère scientifique. À partir du moment où je peux reproduire une expérience et où d'autres personnes peuvent répéter une expérience, et ceci siècle après siècle, hein, par exemple une expérience qui, la première expérience étant celle par exemple du prophète Abraham, et puis répéter à travers les siècles, à travers toute la Bible, et se reproduisant, étant capable, étant encore répétable à notre temps, ça a quand même un caractère de vérité scientifique, c'est quelque chose qu'on a pu reproduire. Je crois que il me semble, il faut demander à nos amis scientifiques si c'est vrai, si on peut dire ça, mais il me semble que une expérience qui peut être répétée acquiert une valeur de vérité. Et c'est quand même la base de la méthode expérimentale, finalement. Donc je crois qu'il y a quelque chose quand même comme ça qui, c'est aussi, je dis ça pour nos contemporains qui ont souvent l'impression que nous parlons de réalité qui n'existe pas, ou que c'est un peu, voilà, métaphorique. En réalité, non. C'est une expérience répétée et répétable dont nous parlons. Alors, donc, vous vous rappelez que ce que disaient les pères, c'est qu'on ne peut pas dire ce que Dieu est, mais on peut dire qu'il est. C'est ça, on joue un petit peu là-dessus, mais c'est quand même assez important. C'est-à-dire, je peux dire que Dieu existe, que Dieu est, parce que je le connais, parce que je le fréquente tous les jours, parce que je le fréquente de plus en plus, etc. Et que je ne suis pas du tout le premier, et que les personnes qui, au cours de l'histoire, ont connu Dieu par expérience, étaient loin d'être des imbéciles, des personnes très, 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 très évoluées, très grandes. Moïse n'était pas un imbécile, Abraham non plus, c'était des gens de très, très, très haut niveau, l'élite humaine de leur temps, donc. C'est, disons, la connaissance de Dieu par expérience, justement, c'est une réalité assez bien fréquentée, quand même. Donc, on est arrivé à cette notion-là, Et c'est de ça dont je voudrais partir pour revenir un petit peu sur, je dirais, l'idée biblique de la connaissance. Parce que ça j'en suis vraiment persuadé, et j'en suis de plus en plus persuadé, et par expérience aussi, c'est que finalement, si on veut comprendre la théorie de la connaissance de Dieu dans la tradition des saints pères, il faut partir de l'expérience biblique de la connaissance. Si on part, parce que quelquefois on ne fait pas ça, on part directement de l'apport philosophique grec qui est indéniable dans le langage des pères. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'influence du tout, ne serait-ce que dans le langage, dans le vocabulaire, je le dirai tout à l'heure, chez eux. Mais ce n'est pas leur point de départ. Enfin, l'erreur, ce serait de réduire les pères, par exemple Saint Basile, qui a ma préférence, comme vous savez, de le réduire à l'influence de la tradition culturelle grecque ou de la philosophie grecque. Je crois vraiment que c'est une erreur. Je pense qu'il faut voir au contraire que c'est quelqu'un qui a une expérience biblique, c'est-à-dire profondément sémitique, pour qui la connaissance de Dieu est expérimentale, c'est ça la conception biblique de la connaissance, et qui utilise des éléments de la culture grecque pour se faire comprendre de ses contemporains, en particulier des non-croyants et des interlocuteurs qu'il a. C'est pour ça que j'avais intitulé le cours tout à fait au début de l'année « La conception patristique de la théologie et sa confrontation au monde ». Ce n'est pas seulement la confrontation au monde contemporain, comme c'est le cas pour nous, mais nos pères anciens, les saints Basile, les saints Jean Chrysostome, ils étaient confrontés au monde. À Antioche, on était confrontés au monde, c'est-à-dire à des non-croyants, ou à des non-orthodoxes, des non-chrétiens, des athées même, en fait. Donc et c'est parce qu'il y avait cette confrontation au monde qu'ils ont employé peut-être trop, peut-être pas assez, je ne sais pas, on n'est pas là pour en juger si facilement, mais qu'ils ont employé un langage qui pouvait être compréhensible par ces gens du monde, ce qu'on appelle le langage de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'à faire cela, on court de très très grands risques, il faut faire extrêmement attention, il faut toujours revenir à la source biblique, ce que font les pères quand même, ce que font les pères. Alors, je vous avais dit que la question de la connaissance du point de vue biblique se pose comme une question de vie plus que de, entre guillemets, science. Encore que le mot science, il ne faut pas s'en débarrasser, comme je l'ai dit un instant. Mais d'après ça, ce qui est important, c'est de partir du point de départ dans la connaissance. Quand on parle de connaissance de Dieu, de quoi est-ce qu'il faut partir? Eh bien, il faut partir du fait que l'être humain est d'abord connu par Dieu. Ça, c'est également une réalité à laquelle on ne pense pas forcément. Nous sommes connus, avant de connaître Dieu, nous sommes connus de lui. C'est ça le point de départ de la connaissance de Dieu, et c'est ça le point de départ de la connaissance théologique. Quand on dit la connaissance de Dieu, le mot « de » peut avoir les deux sens. Dans le sens de connaissance que Dieu a de nous ou la connaissance que nous avons de lui. Saint Basile fait ça, il prend une particule, je le lirai tout à l'heure, la particule de, et puis il écrit trois pages dessus. Donc, nous sommes connus de lui. Comment est-ce que nous savons cela? Nous savons déjà par le livre de la Genèse. Ça, c'est très clair que Dieu connaît l'être humain en le faisant. Comme dit une maman à propos de ses enfants, « Ah, je la connais parce que je l'ai faite. » Ou bien je le connais comme si je l'avais fait. Un potier, un artisan, quelqu'un qui fait un meuble, n'importe quoi, il connaît son travail. C'est pas un problème, on va pas lui apprendre son métier, vous voyez. Or, le Dieu qui modèle l'être humain, donc le connaît. Nous sommes connus de Dieu, mais presque par nature, je ne sais pas comment vous dire ça, mais d'une façon absolument originelle. Nous sommes connu de Dieu et il est ce qu'il connaît de mieux, parce que je vous assure que Dieu n'a pas créé les autres êtres vivants comme il nous a créés nous. Nous, il nous a façonnés, il nous a modelés les autres créatures. Il a dit de loin comme ça, allez, existez, vous là-bas, hop, 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 il a tapé dans ses mains et que la lumière soit, la lumière fut, c'est bon. Il n'a pas pris la lumière, il ne l'a pas modelée, il ne l'a pas pris dans ses mains, il ne l'a pas épousée. Je ne sais pas si Dieu connaît quelle que soit, quelque autre créature que ce soit, visible ou invisible, comme il connaît l'être humain. C'est quelque chose qui est fondamental. Il y a une affinité entre Dieu et l'humain qui est une affinité originelle Je ne parle pas de l'affinité que Dieu a avec l'homme, avec Dieu, dont on peut parler également aussi, mais il y a une affinité que Dieu a avec l'homme parce qu'il le fait, parce qu'il le pratique, parce qu'il le façonne. Et puisqu'il y a ça, il lui donne son souffle, etc. Et c'est parce qu'il lui donne son souffle qu'il y a une affinité réciproque. Et donc c'est l'autre aspect de la question, le fait que nous pouvons connaître Dieu. Le fondement de notre connaissance de Dieu, elle n'est pas seulement dans le fait que nous sommes connus de lui, mais dans le fait que nous avons son souffle, les énergies incréées de son souffle, dès le départ, c'est-à-dire que nous avons le charisme, l'aptitude naturelle à connaître Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, je vais peut-être y revenir, je ne sais plus où j'ai vu ça, dans la Bible, le fait de ne pas connaître Dieu, c'est considéré comme un péché. C'est une ignorance. L'ignorance de Dieu, c'est un péché. C'est le problème, si vous voulez, de notre époque, par exemple. La première fois dans l'histoire du monde qu'il y a des personnes qui osent, à un grand degré de responsabilité politique, affirmer que Dieu n'existe pas, qu'on ne croit pas ou qu'on ne connaisse pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment dans une situation catastrophique. C'est jamais arrivé dans l'histoire, très très peu. Une telle affirmation, c'est ennuyeux, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a une crise de la culture gravissime, une crise de la civilisation gravissime, quand des êtres humains, de bonne foi d'ailleurs, hein, parce que des bonnes personnes par ailleurs, disent quelque chose comme ça. Ne pas connaître Dieu, c'est une faillite du point de vue humain, parce que ça va contre la nature même de l'être humain qui est de le connaître. Vous voyez. Donc nous sommes d'abord connus, ok? Et la connaissance que nous avons, nous, de lui, c'est notre réponse. Donc connaître Dieu, pour nous, c'est répondre à la connaissance qu'il a de nous. Ça, c'est vraiment assez typique. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages. Ce serait vraiment très très long si je ne faisais pas attention. Par exemple, dans le livre de la Genèse, vous retrouverez ça au chapitre 18, verset 19, on voit que Dieu connaît Abraham. Il connaît son serviteur, vous voyez. Donc il ne connaît pas seulement l'homme, l'humanité en général, prise comme nature, mais il connaît des gens. Il connaît des personnes qui ont un nom. Et même Adam, vous savez très bien que ce n'est pas seulement un nom de nature, c'est aussi le nom d'une personne. Et à un moment, quand Dieu dit à Adam dans le livre de la Genèse, Adam, où es-tu? Bon, mais il cherche quelqu'un, vous voyez, c'est pas une humanité impersonnelle que Dieu connaît, c'est une humanité qui a déjà le sceau de ce qu'on appelle son hypostase, c'est-à-dire son caractère personnel. Donc il connaît son peuple. Dans le livre d'Amos, il dit, je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre. Là, il y a une connaissance préférentielle, d'ailleurs ici, que Dieu a pour ce peuple-là qu'il a choisi pour se manifester par lui. Il connaît les prophètes avant leur naissance, par exemple. Et je vous renvoie à ça, je ne l'ai pas pris, j'ai oublié de le prendre, le psaume 138, et j'espère que ce sera très long si on commence à lire les textes, mais je vous demande instamment de lire le psaume 138. D'abord, c'est très bon pendant le carême de lire les psaumes, et justement j'en profite pour dire que, comme d'habitude, nous devons nous situer dans le temps liturgique où nous sommes dans cette espèce de pré-carême, et donc parler de la connaissance de Dieu, c'est évidemment ce qu'on peut faire de mieux, puisque le but du carême, c'est justement d'acquérir la connaissance de Dieu. Et nous sommes aussi dans la fête des 40 martyrs de Sébaste, et c'est des personnes qui avaient une telle connaissance de Dieu, une connaissance tellement personnelle du Christ, qu'on pouvait en rien les faire revenir sur leur foi. C'était des martyrs. Les martyrs sont ceux qui connaissent Dieu. Ils les connaissent tellement de manière personnelle qu'on peut leur couper bras et jambes. On ne peut pas leur enlever la foi. On ne peut pas les amputer. On peut les amputer de leurs membres. On ne peut pas les amputer de la foi. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne vont pas dire que c'est non, puisque c'est oui. C'est comme dire qu'il fait jour quand il fait nuit. C'est impossible, impossible, impossible. Et alors, dans le psaume 138, donc, que vous lirez, tout de même, c'est un psaume. Il faut lire, si vous pouvez, lisez tout le livre du prophète Jérémie. C'est une bonne lecture de carême. Lisez également, si vous avez du temps, pour le même sujet de la connaissance, lisez tout le livre du prophète Osée. Donc Osée et Jérémie sont deux textes très intéressants pour ce thème-là de la connaissance. Mais lisez le psaume 138. Or, que dit le psaume 138? Ou plutôt, que dit le saint et grand prophète David? Il dit... Alors c'est 138 chez nous les orthodoxes, c'est 139 chez nos amis catholiques et protestants. Donc il dit, Seigneur ou Éternel, tu m'examines et tu me connais. Et il dit ça, oui. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Si je monte au ciel, tu y es. qu'il dit après. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. C'est toi qui as formé, au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, c'est l'embryon au stade vraiment plus 1. J'étais encore un embryon au début, c'est pas très formé. Hein. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui étaient prévus pour moi, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est l'idée que Dieu a une connaissance de l'être humain avant même de le créer, que c'est une sorte de prévision, pronostic. C'est très, très intéressant, c'est-à-dire que chaque être humain existe, puisqu'il pourrait exister, il faut que Dieu le veuille. Mais avant de vouloir, Dieu sait ce qu'il veut, si je peux dire. Donc il a dans son intelligence, il a le logos, dit Saint Maxime le Confesseur, il a le logos de ce qu'il veut. Donc s'il dit que telle chose existe, ou que tel être humain existe, il le dit parce qu'il le sait. Vous voyez, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il y a une préexistence des âmes ou des gens en Dieu, c'est une notion qui n'est pas orthodoxe, mais ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait, et qu'il pense ce qu'il dit, et qu'il pense avant de dire quelque chose et de vouloir. Oui. Donc, vous relirez ce psaume 38, vous voyez qu'il est très fondamental, c'est-à-dire que bibliquement parlant, la connaissance, c'est d'abord ça, vous comprenez? C'est quand même assez clair. Et puis, vous retrouverez ça dans d'autres textes, dans le livre de l'Exode, par exemple, au chapitre 33 du livre de l'Exode, c'est intéressant, Dieu qui dit à son serviteur, « Je te connais par ton nom ». Il s'est repris dans l'évangile selon saint Jean, c'est très important, c'est un saint Jean chapitre 10 verset 3, où le bon pasteur connaît ses brebis et les appelle. Donc l'idée, oui, ensuite, le thème de la connaissance dans la Bible, vous le savez très bien, c'est que Dieu se fait connaître. Alors ça, on l'a déjà beaucoup dit, on l'a déjà fait au début de ses cours, on a déjà beaucoup parlé de ça, du fait que Dieu révèle son nom, dans l'Exode 3:14, qu'il pénètre dans sa crainte, se fait craindre, c'est-à-dire il manifeste sa puissance, et c'est une des façons de se faire connaître. Exode 20-18, c'est au Sinaï que ça se passe, il témoigne de sa miséricorde dans le Deutéronome chapitre 4, 32, 11-2. Pourquoi sa miséricorde? Parce qu'il délivre son peuple des ennemis, il lui donne une terre, et il fait connaître surtout, c'est assez important que Dieu se fait connaître dans ses commandements. Alors ça, nous y tenons beaucoup, que nous soyons juifs ou chrétiens, ce qui est en fait la même chose, hein, faire attention, l'essentiel pour nous, ce sont les commandements. Pourquoi? Parce que les commandements expriment la volonté de Dieu, manifestent le vouloir divin, manifestent la sagesse de Dieu et manifestent l'amour de Dieu. Tous les commandements qui sont donnés, ils sont extrêmement nombreux, ils sont innombrables, les commandements de Dieu, et qui commencent à la création, parce que quand Dieu dit que la lumière soit, c'est un commandement, je vous signale, hein, et la lumière existe par obéissance, que je trouve assez génial et extraordinaire. Mais donc les commandements de Dieu sont les manifestations de son amour, et c'est donc on le connaît par ses commandements. C'est pour ça que dans la Bible, et nous les chrétiens, et le Christ a tellement insisté là-dessus, nous tenons à suivre les commandements, non pas pour des raisons juridiques ou de morale extérieure, mais parce que nous voulons connaître Dieu, et que nous pouvons connaître Dieu qu'en faisant sa volonté. Il n'y a pas d'autre voie. C'est pour ça que le Christ dit ça. C'est ceux qui sont mes frères, mes sœurs, etc., ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Attends, je vais y revenir très, très souvent parce que c'est vraiment très important et ça permet de retrouver aussi le sens profond des commandements. Parce que souvent, ils sont interprétés comme des injonctions morales, juridiques, quelque chose d'un petit peu sec, d'un peu. On ne voit pas très bien. Il faut les redécouvrir comme des paroles de vie données à Dieu par amour. Donc il se fait connaître par ses commandements, parce que les commandements indiquent tous quoi? Ils indiquent la voie du bonheur. Donc c'est là qu'on voit que l'amour de Dieu se manifeste par eux. Ils sont tous coordonnés vers le projet divin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la joie de l'être humain, le bonheur de l'être humain, l'épanouissement de l'être humain. Quand je vous disais tout à l'heure de quoi est-ce que Dieu parle quand il parle de nous, il parle du bonheur qu'il veut que nous ayons, il veut de la joie qui est la sienne, à laquelle il veut que nous ayons part. Donc, les commandements vont vers ce but-là, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais que l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu est donc un péché. Hein, c'est, ben en français, le mot ignorer est un mot très intéressant. C'est aussi un des sens du terme grec de agnia. Agnia ou agnoia en prononciation universitaire, ça peut être la docte ignorance, mais ça peut être aussi un péché, c'est-à-dire le mépris. Par exemple, vous écrivez à l'administration, l'administration dit, voilà, nous allons ignorer ce courrier. C'est ce que fait notre gouvernement, que Dieu leur pardonne. Nous prions tous les jours pour les membres de notre gouvernement, que Dieu leur pardonne. Ils ignorent les objections qu'on leur présente et les manifestations, ben, tout ce qu'on veut, ils ignorent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les connaissent pas, mais ça veut dire qu'ils les traitent par le mépris, et que même ils rient. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une certaine assemblée, réunion des députés, les gens, ils riaient, ou ils jouaient avec leur téléphone pendant qu'on leur faisait des observations. Donc c'est ça qu'on s'est ignoré, mais dans le sens vraiment très très péjoratif. Donc ignorance de Dieu, ça peut être aussi ça, ça peut être mépriser le commandement. Dieu a dit ça, je n'en ai rien à faire, comme on dit vulgairement, mais ça peut être tout simplement ne pas être au courant, ne pas les connaître. Mais même ça, c'est un péché. Parce que tu ne peux pas vivre sans connaître la volonté de Dieu. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain. Ah, comment vous dites ça, docteur? Mais comment est-ce qu'on fait une chose pareille? Eh bien voilà, un être humain qui ne connaît pas Dieu n'est pas encore dans tout ça. Qui commence pas à connaître Dieu, même un petit peu, il n'a pas commencé à devenir vraiment un être humain, parce que l'être humain, se définissant par l'image et la ressemblance, si je n'actualise pas ce processus d'image et de ressemblance, je suis un sous-homme, je suis un état de sub-humanité, même si j'ai pas tué père et mère, même si je suis quelqu'un de très gentil, si vous voulez, mais dans la mesure où j'ignore Dieu, où mon univers ne comporte pas l'existence de Dieu et sa volonté, la relation divino-humaine, je suis en état de sub-humanité. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas laisser non plus l'humanité dans cet état-là. Dire, oh ben c'est pas grave, il ne croit pas, mais c'est pas grave. De toute façon, on entend des propos quelquefois de ce genre-là, vous voyez. Dire, ben, bon, il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, ils ne croient pas, mais c'est pas grave. Mais nous ne pouvons pas laisser dire une chose pareille. Comment est-ce qu'on peut laisser dire une chose pareille, vous voyez? Est-ce qu'on peut être insensible au fait que quelqu'un est privé de la vie éternelle, est privé de la nourriture, est privé de l'air à respirer, est privé de... C'est pire que d'avoir la télévision sans la couleur, vous voyez, c'est pas possible, privé de couleur. C'est pire que la télévision, j'en ai rien à voir. Donc, et surtout, la Bible insiste sur le fait que on croit connaître Dieu et qu'on ne le connaît pas. Alors ça, c'est assez important, c'est-à-dire les ambiguïtés de la connaissance. Ça, c'est dans le livre d'Osée que vous allez lire, au chapitre 8, verset 2. On croit connaître Dieu, et en fait, ce qu'on fait, ce n'est que du formalisme. Ça, c'est ce que j'ai appelé dans une très bonne soirée dans un groupe de l'ACAT. L'ACAT, c'est l'association... Non, pas de l'ACAT, de la JCF, de l'association... l'amitié judéo-chrétienne de France, voilà, à JCF. La CAT, c'est une autre chose qui est très bien également. Mais la JCF, donc, à cette réunion, j'avais eu à faire un exposé, et j'avais appelé mon exposé « Les ambiguïtés du religieux » ou « Les ambiguïtés de la religion ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'ambiguïté de la religion? C'est que c'est une, quelquefois, c'est pas ça pour être négatif, hein, mais quelquefois, la religion, c'est une non-connaissance, c'est une ignorance de Dieu. Quand c'est simplement un formalisme, des rites qu'on fait parce qu'il faut les faire, et qu'il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu, il n'y a pas vraiment d'épousaille de Dieu à travers le rite, où on peut ainsi... Je ne sais pas, moi, je me surprends moi-même pour rester à mon propre exemple, je me surprends quelquefois à faire le signe de croix machinalement, par exemple. Mais ça, c'est un péché. C'est un péché, ça. Vénérer une icône à toute allure, ou dire les prières à toute allure, en pensant à autre chose, ce sont des péchés, ça. Il faut se confesser de ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est vraiment de l'ignorance. C'est-à-dire, je crois connaître Dieu parce que je connais le Notre Père par cœur, par exemple. En fait, ma façon de dire le Notre Père, de le débiter sans penser ce que je dis, à qui je suis en train de le dire, et à penser que celui à qui je dis Père Céleste est là, présent, et m'écoute et m'entend. Donc, vous voyez qu'il y a quand même. Une vraie difficulté. Donc la religion, c'est vrai que ça peut être très, 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 très ambigu et très trompeur. Très trompeur, très trompeur. On croit qu'on connaît Dieu parce qu'on va à l'église tous les dimanches, qu'on participe à toutes les liturgies, qu'on touche pas, qu'on suive le carême. Alors, nous, les orthodoxes, on va suivre le carême, manger quand il faut, ne pas manger quand il faut pas. Bon, on est orthodoxement conforme, mais on peut être dans l'erreur. On peut être dans l'erreur parce qu'il n'y a pas une vraie connaissance de Dieu dans tout cela. Donc, vous voyez, c'est assez important. Et ça, ce n'est pas une invention de ma part, c'est vraiment le fond biblique. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, en particulier chez les prophètes. Les prophètes, vous verrez, je parle par exemple, Isaïe 29, les versets 13 et suivants, et surtout le chapitre 7 du prophète Jérémie. C'est important, ça. Il dit, voilà, vous faites ceci, vous faites cela, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas. C'est-à-dire que ce sont des comportements religieux, mais qui sont privés d'une vraie relation divino-humaine. Mais tout ça, c'est dans la Bible, vous voyez. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que tout le thème de la relation divine-humaine, qui est le thème de l'alliance biblique, hein, qui est repris par les pères avec le thème de la divinisation, la déification et divinisation, en développant le thème de la ressemblance avec Dieu, tout ça, c'est profondément biblique, profondément exprimé déjà par les prophètes. Et quand le Christ, justement, parle de manière un peu sévère à ses contemporains, ils font ceci, mais il leur reproche, enfin, il leur reproche. Il essaie de leur faire prendre conscience qu'ils font des rites auxquels ils ne connaissent rien. Et pourtant, ils les font peut-être très bien, vous voyez. Mais ils sont privés de la connaissance véritable. Le problème de la connaissance est très très important, vous voyez. C'est qu'on peut être privé de la connaissance parce que, à cause de nos péchés, à cause de mauvaises habitudes, et pas seulement parce qu'on ne fait pas les choses bien, vous voyez. Ça peut être bien fait, mais être privé de connaissances. Par exemple, je peux réciter le credo de Nicée-Constantinople par cœur, hein, et que ce soit privé de connaissances, parce que je ne le prie pas, c'est-à-dire que je le dis sans le prier, je le dis sans le dire, en fait. Je le dis sans penser ce que je dis, je le dis sans joie, sans enthousiasme, sans lumière, sans feu, sans flamme, sans l'Esprit-Saint. Donc c'est un texte que je vais dire en étant privé de connaissances. Donc c'est vraiment une question très très importante, hein. Parce que, et ça, Osée, c'est encore le prophète Osée qui dit ça, l'authentique connaissance de Dieu, vous le savez tout ça, pénètre jusqu'au cœur et se traduit dans la vie. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et dans Isaïe, bon, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Alors ça, c'est un chapitre très important. La connaissance, la religion, justement, c'est la pratique, dans Jérémie 22, il faisait droit et justice, il jugeait la cause du malheureux et du pauvre. N'est-ce pas là me connaître, dit le Seigneur. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans la bouche de Dieu, ou plutôt dans la bouche du prophète, le Seigneur dit lui-même que c'est le connaître, c'est ça, c'est faire sa volonté, juger la cause du malheureux et du pauvre. Alors c'est on n'est pas dans un contexte occidental où on va nous dire « Ah, vous réduisez tout à la morale ». C'est pas un problème de morale, c'est un problème de connaissance, c'est un problème théologique. Mais la théologie, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que seulement en la faisant, je la connais. Exactement comme l'artisan dont on parlait tout à l'heure. Quand je disais que Dieu nous connaît parce qu'il nous a fait, nous ne pouvons connaître Dieu qu'en, d'une certaine façon, le faisant. Mais nous ne fabriquons pas Dieu, je suis d'accord avec vous. Mais nous faisons quelque chose de lui quand nous faisons sa volonté. Nous sommes les artisans de la volonté de Dieu. Nous sommes les petits. Lui, il est l'artisan de nous-mêmes, il nous a fait. Et nous sommes les artisans de sa volonté. Et c'est en étant les artisans de sa volonté, c'est-à-dire en taillant le bout de bois dans le bon sens, en prenant le rabot dans le sens du bois et pas à contre-sens, en suivant le maître artisan qui est Dieu, que les apprentis que nous sommes le connaissons. Je ne sais pas si vous avez vu ça, dans certains pays ça existe encore, ce qu'on appelle l'artisanat. Moi j'ai vu dans certains pays des personnes sachant ni lire ni écrire, excusez-moi de dire ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, mais qui étaient capables, en tant qu'apprentis, d'être près d'un maître charpentier, de faire ce qu'il fait, de reproduire ce qu'il fait, et voir comment il prend l'outil. Même les enfants font ça. Par exemple, des enfants dont le père est bricoleur. Les enfants s'approchent de leur papa, et ils voient comment il prend les outils, ils le prennent comme lui, ils l'imitent, et ils finissent par faire ce que le père fait. Donc notre connaissance de Dieu, c'est exactement ça, si vous voulez, c'est de faire comme Dieu fait, faire ce que Dieu fait, comme Dieu fait, et faire ce qu'il fait aussi, faire sa volonté. C'est pour ça que ça revient tout le temps. C'est une conception pratique de la connaissance. C'est une conception artisanale, expérimentale, artisanale. Je ne sais pas, c'est comme. Je pense que les gens, justement, nous avons, parmi nous, un ami chirurgien, je pense que. Voilà, comment est-ce qu'on apprend les gestes de la chirurgie? On ne les apprend pas que dans les livres, quand même. Ça, c'est de la médecine de Molière. J'aime beaucoup Molière, je trouve que ça devrait être une lecture obligatoire, absolument, chez tous les gens. Mais Molière a beaucoup critiqué la médecine de son temps, parce que vous savez, comment on apprenait la médecine? On apprenait le latin. Si on était bon en latin, qu'on avait lu tous les livres en latin sur la médecine, on avait le grade de docteur en médecine et c'était bon. Mais il y a des gens qui n'avaient jamais vu un malade, c'est effrayant. Ils ne savaient pas du tout par quel bout le prendre, rien. Donc ça veut dire qu'il y a des gestes pratiques qu'on apprend, je pense, quand on est chirurgien, on apprend à s'approcher du corps d'autrui, à éventuellement l'inciser, à l'ouvrir, tout sortir, tout remettre dans le bon ordre après. Enfin, c'est facile, facile. On numérote les pièces quelquefois, je pense. Non, pardon de parler peut-être en plaisantant de choses très très sérieuses, comme ça je ne devrais pas faire ça, mais c'est pour faire comprendre de quoi nous parlons, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense que nous avons perdu cette vision-là. Nous sommes entrés, c'est sous l'influence occidentale, nous sommes entrés dans une vision très très théorique de la connaissance de Dieu, très théorique, très abstraite, très systématique, très intellectuel au fond de la théologie. Nous avons perdu, nous pouvons retrouver assez facilement, nous avons perdu le sens biblique, artisanal et pratique et manuel, voilà, je cherchais le mot manuel de la théologie, de la connaissance. C'est un faire. La connaissance de Dieu, c'est un faire. C'est pour ça que le Christ dit, c'est intéressant, il ne dit pas celui qui a accompli la volonté de mon Père, mais il dit celui qui fait. Étonnant ça quand même. Il emploie ce mot-là. La praxis, en grec, c'est ce mot-là. C'est pour ça que dans les monastères, qui sont notre référence pour presque tout, j'espère que je ne choque personne en disant ça, mais très franchement, mais qu'est-ce qu'on fait dans les monastères? Les garçons, on leur fait faire des choses. Ils coupent du bois, ils font des moules pour les phosphores, ils construisent des bâtiments. L'aspect pratique, et ils font ça par obéissance au Père spirituel qui leur donne leur obéissance, leur ascultare, comme on dit en romain. Ça, c'est tout à fait typique de la méthode de connaissance. Voilà. Donc, je crois que je me trompe. Alors, maintenant, avec tout ce que je vous dis là, il faut quand même aussi dire et savoir et rappeler que l'ensemble de l'Écriture, l'ensemble de la parole de Dieu est rempli, rempli, rempli d'une espérance de la connaissance de Dieu. C'est ça, l'espoir fondamental de l'homme biblique que nous sommes, de l'être biblique que nous sommes. Nous croyons. Nous espérons et nous savons que nous pouvons connaître Dieu et que nous le connaîtrons si nous faisons sa volonté, comme on l'a dit. C'est pour ça que il y a un très beau texte d'Isaïe qui dit: le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Jérémie dit ça aussi: ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'aux plus grands. Mais à condition aussi d'accepter que Dieu nous donne un cœur. Ce qu'il appelle le cœur nouveau, c'est-à-dire la faculté intérieure de la connaissance, qui n'est justement pas l'intellect réfléchissant, disons, mais qui est cette faculté concrète, un cœur intelligent, ou une intelligence cordiale, quelque chose de cette connaissance qui unit le cœur et l'intelligence, dont a parlé beaucoup, beaucoup toute la tradition hésychaste après, hein, vous savez très bien. Alors ça, c'est ça qui est fondamental. Il y a un organe de la connaissance en nous qu'on appelle le cœur et qui se manifeste quand on fait les choses et qu'on les fait bien, qu'on les fait par amour, qu'on les fait par obéissance, qu'on les fait parce qu'on aime Dieu et qu'on aime le prochain. C'est le cœur qui se développe, oui, et c'est le cœur en tant qu'organe justement de la connaissance. Et à ce moment-là, effectivement, Dieu peut se faire connaître, parce qu'il se fait connaître aussi à travers cet organe. Il faut bien qu'il y ait chez nous, comment dire, un point de connexion, si vous voulez, par où se fait cette rencontre. Bon, après ça, il y a eu beaucoup dit dans la Bible, par exemple, concernant la sagesse, dans le livre de la sagesse même, si vous voulez, la connaissance de Dieu est comment dire, plus interprétée comme sagesse. C'est un peu différent à l'enseignement des prophètes. Les prophètes insistaient beaucoup sur la pratique, faire la justice, etc. La sagesse, c'est lié beaucoup plus à quand même une faculté de l'esprit. Par exemple, dans le livre de la sagesse, on parle d'acquérir l'esprit de sagesse, d'être confronté à l'incompréhensibilité de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est quand même plus, dans le livre de la sagesse, dans le livre Sapientio, comme on dit, quelque chose qui est plus quand même du domaine pas spéculatif, si vous voulez, mais méditatif, réflexif, qui ressemble un peu plus, quand même, si vous voulez, à la ligne grecque, si je peux dire, de la connaissance. Je le dis, mais c'est très important, parce que chez les pères, on trouve les deux, justement. On trouve les deux. Bon, et par exemple, dans le livre de la sagesse, on attache une grande importance, par exemple, au spectacle de la nature. C'est dans le livre de la sagesse, la grandeur et la beauté des créatures font connaître par analogie celui qui en est le créateur. Ça, c'est quand même beaucoup plus intellectuel, vous voyez, par analogie. Donc là, mais pourquoi pas? Il y a aussi la place pour ça. J'ai insisté beaucoup sur l'aspect pratique parce que je le trouve très ignoré au fond, mais l'aspect plus intellectuel, entre guillemets, existe et également. C'est quand même la vie de l'esprit. Et alors, vous savez très bien que dans l'Évangile, ça c'est donc très, ça se précise dans l'Évangile, surtout dans l'Évangile selon saint Jean, j'essaie d'avancer, ou dans les épîtres même de saint Jean, il y a quand même l'idée fondamentale que Dieu s'est incarné, que le Fils de Dieu s'est fait homme pour que nous le connaissions, pour nous faire connaître le Père par l'Esprit Saint. C'est ça le but de l'incarnation. Que souvent on dit, eh ben, c'est vrai aussi, Christ est venu nous sauver du péché, d'abord la croix, bien sûr, mais le péché c'est justement l'ignorance de Dieu. Donc il faut quand même l'interpréter par le bon bout. L'essentiel du mystère de la croix, l'essentiel de la résurrection, l'essentiel de la Pentecôte, de toute l'œuvre du Christ, du don du Saint-Esprit finalement au bout du compte, l'essentiel, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est pour ça que justement, saint Jean, vous lui relirez ça, relisez si vous pouvez aussi la première épître de saint Jean, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence, il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable Dieu. Donc c'est ça. Donc la mission du Fils de Dieu dans le monde, en devenant homme, c'est une mission de connaissance. De révélation, mais pas seulement révélation angélique, mais de révélation par la preuve, parce qu'on l'a touché, on a touché Dieu homme. Des choses extraordinaires. Les gens ont vu Dieu dans les visages du Christ. Les gens ont vu Dieu. On peut pas dire qu'on ne connaisse pas Dieu. C'est pas possible, puisqu'il s'est montré, on l'a touché, on l'a entendu, nos yeux l'ont vu, etc., comme dit le même saint Jean. Saint Jean insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que même la vision de Moïse, qui est une vision extraordinaire, c'était pas la même chose qu'une vision dans laquelle Dieu, tu peux même le toucher, même là, cette femme, c'est très beau dans l'Évangile, cette femme qui s'approche du Christ, elle n'ose pas le toucher justement, elle touche son vêtement et elle se met derrière lui parce qu'elle n'a pas elle se sent absolument impure devant lui, elle ne va pas s'approcher de lui, vous voyez, c'est-à-dire que donc le contact, le contact avec la divinité, le contact humain avec la divinité, le contact avec la divinité dans une humanité déifiée, divinisée, qui est celle du Christ, c'est quelque chose de réel, de très 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 fort, très 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 fort, et d'absolument nouveau. Jamais, 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 même les plus évolués, les plus grands des anciens n'ont touché Dieu du doigt. Et jamais. Mais ça ne nie absolument pas tout ce qui s'est passé, qui est absolument extraordinaire. Chez les prophètes, hein, mais personne n'avait touché Dieu du doigt jusqu'alors. Donc c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est assez important parce qu'on parle de la connaissance, mais il faut savoir que c'est ça qui définit la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître. Il le dit, saint Jean, la vie éternelle consiste, c'est le Christ qui parle en saint Jean, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Qui est donc cette connaissance directe dont je parle, qui est une connaissance par communion aussi. Vous verrez ça dans la première épître de saint Jean. Il dit, nous sommes en communion avec lui et nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que nous participons à sa vie. Vous voyez, non seulement nous avons touché Dieu du doigt, et nous le touchons et nous le mangeons, nous communions quand même au corps et au sang de Dieu. Vous voyez. Faire attention, même dans le langage qu'on emploie, on dit, voilà, on communie au corps et au sang du Christ. Et dans beaucoup de mentalités, on est en train de communier au fond à l'humanité. Jésus, mais c'est l'humanité déifiée, et c'est l'humanité de Dieu fait homme. Et c'est saint Grégoire de Nazianze qui n'hésite pas à employer l'expression hémaphéou. Hémaphéou, c'est le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Donc, une communion au corps et au sang de Dieu. Ça, c'est quand même pas rien. Vous voyez. Donc il y a le toucher, il y a la manducation, il y a la consommation concrète, hein, Saint Jean Chrysostome, que j'aime beaucoup aussi, il a des phrases, même, c'est même un peu, il dit c'est extraordinaire que nos dents même se plantent dans la chair de Dieu. Nous mangeons, nous mâchons Dieu, nous mordons dans la chair de Dieu. Non seulement nous le touchons, mais nous le mâchons. Et c'est les pères anciens, Saint Jean Chrysostome en particulier, une idée très 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 concrète, très réaliste de l'onction, de la vie sacramentelle. Oui. Bon, donc vous voyez, c'est quand même. C'est tout à fait le même esprit, quand même biblique, vous voyez, d'une connaissance pratique, très corporelle, très contactuelle, et très, très, très physique, très sensible. D'où l'importance du corps dans l'Église. Pourquoi est-ce que le corps est tellement important pour les chrétiens? Pourquoi est-ce que nous battons, nous les chrétiens, actuellement pour des questions qui relèvent justement de la vie corporelle? Mais parce que le corps, c'est comme ça qu'on connaît Dieu, on connaît Dieu corporellement. Toute notre ascèse corporelle, les méthanies, l'acquisition de la chasteté, la sobriété, le jeûne, la veille debout pendant des heures, etc. Tout ce qui fait participer notre corps, c'est le chemin de la connaissance. C'est pour connaître Dieu que nous mettons aussi notre corps en mouvement dans les méthanies, par exemple. Ah, vous savez tout ça, pardon. Voilà. Donc, et la promesse du Christ, c'est au futur, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole. C'est-à-dire, c'est un synonyme de faire la volonté, hein, faire le précepte, faire le commandement. Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous demeurerons en lui. C'est-à-dire, donc, il y a l'idée d'une habitation de Dieu dans l'être humain. Et on voit vraiment dans la connaissance, oui, c'est un petit peu différent de ce qu'on entend souvent par le mot connaissance. Oui. Là, c'est une habitation réciproque. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc, nous le connaissons parce que nous l'épousons. En fait, ça revient à la vieille idée biblique. Vous savez, je vous avais dit ça la dernière fois, qu'en hébreu, le mot qui désigne la connaissance est le mot qui est utilisé pour parler des relations conjugales, des relations corporelles des époux quand ils conçoivent un enfant. Donc c'est quand même très très fort et c'est le sens premier en fait du terme connaître en hébreu. Donc ici c'est ce qui nous arrive au fond, c'est qu'il y a cette épousaille en fait de Dieu ou interpénétration, interappartenance l'un dans l'autre. Enfin, nous formons une seule chair. Hein, la doctrine biblique du couple justement, c'est la doctrine de la chair unique, c'est-à-dire la nature unique, l'union naturelle. Et c'est ce qui se passe aussi par la vie chrétienne. C'est une connaissance par union corporelle, union des natures, en fait, des natures divines, des natures humaines qui s'épousent sans se confondre toutefois, mais qui s'épousent totalement. La preuve qu'elles s'épousent, c'est qu'elles sont fécondes. C'est ce qui semble intéressant, c'est-à-dire la preuve que la nature humaine et la nature divine se sont unies totalement, mais c'est le Christ. C'est qu'il n'aurait pas pu avoir la mère de Dieu n'aurait pas pu être féconde. Si cette union naturelle, co-naturelle, l'union des natures n'avait pas été réelle. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire, puisque un être, c'est quelque chose qu'on voit même dans la nature, si vous voulez. Des animaux d'espèces trop différentes ne peuvent pas se reproduire entre eux, c'est impossible. On ne peut pas croiser une souris et une grenouille. Je prends des exemples qui sont à la portée de tout le monde. Bon, ça ne marchera pas, hein. Ils ne font pas de petits. Donc pour pouvoir avoir un croisement, si je peux dire, qui soit fécond et qui ne soit pas stérile, justement à son tour, il faut que les deux partenaires, si je peux dire, soient de la même espèce, soient de la même nature. Donc c'est ce qui se passe, l'engendrement du Christ par la Mère de Dieu, c'est la preuve même de l'union totale des natures humaines et divines, de la connaissance parfaite advenue en la Mère de Dieu. En ce jour, par l'Esprit Saint. C'est très dans le concret. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que je vais prendre le texte de Saint Basile, vous allez voir que lui, il a un petit peu de mal à rester aussi les pieds sur terre. Bon, donc ça, j'insistais pas plus là-dessus, je pense qu'on se comprend bien. Alors, après ça, il y a un autre point qui est important, c'est le rapport entre la connaissance, qu'on parle toujours de la connaissance, hein. Il y a ça le thème, la connaissance et la notion de gnose, ou les gnoses, c'est-à-dire les autres formes de connaissance qu'on peut proposer, ou à laquelle on peut prétendre, ou qui ont été opposées à la connaissance biblique et chrétienne, ce qu'on a appelé. Alors ça, ici, il faut savoir que la personne la plus courageuse dans ce domaine-là, c'est saint Paul. Une fois de plus, saint Paul a été très très ferme là-dessus, en disant justement, en opposant la croix à des savoirs humains, des théories qui se baladaient, les spiritualismes de l'époque, les gnoses de l'époque, les philosophies de l'époque, que les gens auraient bien voulu introduire dans l'Église. Vous savez, les problèmes que nous avons au XXIe siècle ne sont pas absolument nouveaux, hein. Le fait qu'on veut faire pénétrer dans l'Église des théories psychologiques, des théories philosophiques, des théories de religieux d'autres endroits. Bon, ça, c'est tout le temps, nous sommes confrontés à ça un peu tout le temps, mais c'était comme ça aussi, vous voyez, très 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 tôt. Et avant Saint-Basile, et avant Saint-Jean-Chrysostome, le saint rabbin Paul était confronté à ça. Donc il est très très clair, et il oppose, et oui, il oppose courageusement, quelquefois il faut le faire, le savoir humain, donc cette pensée de l'extérieur, cette philosophie de l'extérieur, à la foi au Christ crucifié. Vous connaissez cette expression-là, qui est la foi dans le Christ crucifié, cette connaissance-là, c'est la force de Dieu et la sagesse de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, ou ce qu'il appelle aussi la folie de la prédication. Mais cette folie, c'est une connaissance. Une connaissance, elle a été appelée folie, parce que du point de vue de la philosophie du monde, ça paraît extraordinaire. Si vous avez l'assemblée, quand nos évêques, que ce soit les évêques catholiques ou les évêques orthodoxes, en pleine assemblée nationale, font allusion à la foi chrétienne, ils n'ont pas toujours été très respectueux, nos élus, il faut quand même le reconnaître. Et quand ils n'étaient pas respectueux, ils étaient capables de se moquer. Il y a eu des moqueries, des dérisions, il y a eu des plaisanteries, parce que ça paraît une folie. La référence qui est celle des chrétiens, c'est principalement la résurrection d'ailleurs. Pour le monde, c'est n'importe quoi, vous voyez. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ça, ils ne vivent pas dans l'Église. Il faut vivre dans l'Église. Si on ne vit pas dans l'Église, on ne sait rien. Si on ne va participer à la liturgie, si on ne participe pas à la vie de la communauté, à la vie d'une paroisse, si on ne se confesse pas, si on ne jeûne pas, on ne sait rien parce qu'on ne l'expérimente pas, justement. Donc, saint Paul oppose ça, vous voyez. Et c'est une connaissance par le Saint-Esprit. Il dit, c'est comme ça qu'on connaît les dons que Dieu nous a faits. C'est comme ça qu'on est enseigné par l'Esprit. Et toujours à l'Épître aux Corinthiens, qui est un très très beau texte, très beau texte. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à s'émerveiller, ça c'est dans l'Épître aux Éphésiens, de s'émerveiller de l'insondable richesse du Christ. Et c'est comme ça qu'on arrive à chercher et à trouver le plein épanouissement de l'intelligence qui nous fait pénétrer le mystère de Dieu dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est l'Épître Colossien. Donc vous voyez, saint Paul parle de connaissance, parle bien de connaissance, mais connaissance à partir d'une greffe sur le Christ, de quelqu'un qui vit vraiment dans son quotidien, par la foi, par la pratique, qui vit l'expérience de Dieu, qui vit en Christ. Hein, comme, vous savez, on a ça sous deux auteurs, un très grand auteur chrétien qui a employé ça comme titre, saint Nicolas Cavazilas d'abord, et saint Jean de Kronstadt, qui ont le même titre. La vie ou ma vie en Christ. Ben ça, c'est l'expression vie en Christ, vie dans le Christ, si vous voulez, est une expression très, 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 très fondamentale, parce qu'elle résume, en fait, ce que saint Paul appelle la connaissance. C'est en vivant en Christ qu'on connaît Dieu. Si on ne vit pas en Christ, on ne connaît rien du tout. On a des théories, mais qui ne correspondent pas à la réalité et pour lesquelles on ne donnera pas sa vie. Il faut savoir aussi que le martyr reste toujours le sceau de la vérité. C'est pour ça que tous les jours de l'année, nous avons des prières adressées aux martyrs. Il y a des jours qui leur sont consacrés plus, lundi et le samedi, mais ou même le mercredi, on y fait allusion. Mais je vois dans les canons, parce que je dis beaucoup les offices de l'Église, les canons de ce qu'on appelle l'octoex, c'est-à-dire l'office des huit tons, il y a presque tous les jours, je ne crois pas me tromper, il y a au moins deux, trois pères dans un canon, il y a au moins deux, trois pères pour les martyrs. Pourquoi ? Parce que les martyrs sont ceux qui attestent cette connaissance expérimentale. Pour une philosophie, on ne donne pas sa vie. Mais pour ce qu'on a connu dans sa chair, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas nous en amputer. Et je dis ça avec beaucoup en soulignant, parce qu'il n'est pas impossible que nous ayons, dans les temps qui viennent, à faire cette expérience-là, justement l'expérience du martyr. Impossible. C'est impossible qu'on se retrouve en France, dans les pays d'Europe occidentale, dans des situations analogues que ceux qu'ont connu les pays de l'Est il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je reviendrai un peu sur les expressions qui sont employées. Alors, ce qui est important chez saint Paul, c'est l'opposition tout de même, c'est cette connaissance par le vécu, la vie en Christ, hein, et les connaissances spéculative. Quand il dit que la science enfle et que la charité édifie, c'est de ça qu'il parle. Il peut y avoir une connaissance purement spéculative qui nous met dans l'orgueil, qui fait qu'on a l'impression de connaître. Moi, j'ai l'expérience de ça. C'est, au départ, j'avais une formation universitaire. Donc, tu vois, on acquiert beaucoup de choses. On a tout lu, on a les diplômes, on a les examens. Bon, on sait beaucoup de choses, mais ça reste purement spéculatif et intellectuel. Alors que la connaissance qu'on acquiert en vivant dans l'Église, dans sa vie, dans le culte, dans la vie ascétique de l'Église, tu vois, ça fait autre chose, parce que c'est une illumination de notre être. Et alors finalement, c'est dans l'Épître, pardon, aux Éphésiens, il dit ça aussi, l'amour du Christ surpasse toute connaissance, mais dans ce sens-là, dans le sens de connaissance spéculative. L'amour du Christ, c'est la vraie connaissance. La connaissance plus forte que la connaissance. Ici, il emploie deux mots, j'y reviendrai. Il oppose, enfin, dans le texte qu'on a, qui est un texte grec, le terme de gnosis pour désigner la connaissance spéculative extérieure et finalement sans qu'il n'a pas accès à la vérité, qui est trompeuse éventuellement, celle que saint Irénée appelle la fausse gnose dans le livre contre les hérésies. Et il emploie ce mot-là, gnosis, pour la fausse connaissance, au fond, et un autre mot, le terme de épigonosis, pour désigner la connaissance que nous donne l'amour du Christ. Donc, gnosis et épignosis. Alors, retenez bien ces deux mots-là, je ne sais pas si vous l'écrivez en grec, parce que c'est écrit comme ça se prononce, non, je n'ai pas de tableau pour vous l'écrire. Et épignosis et gnosis, donc ce sont deux mots qu'on va retrouver tout à l'heure, si je peux, dans les textes de saint Basile. On a encore un petit peu de temps. Voilà. Et alors, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, dans le fameux hymne à l'amour ou à la charité, suivant la traduction, pardon, c'est l'amour, l'hymne l'hymne à l'amour se termine quand même comme ça. Il dit « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Donc c'est bien le thème que je vous avais annoncé au début. Nous sommes d'abord connus par Dieu, nous répondons à son appel et nous entrons dans un processus de connaissance en réponse, responsoriale, si je peux dire. Bon, et finalement, au bout du compte, nous le connaîtrons comme il nous connaît. Ce qui est fabuleux comme programme. C'est absolument extraordinaire. Saint Paul dit ça avec une certitude. Hein, il dit, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et l'expression qu'il emploie ici, c'est justement épignosis. C'est-à-dire cette vraie connaissance. D'accord ? Vraie connaissance ou connaissance parfaite. Donc on arrive, si vous voulez, à se situer un petit peu. Il y a une connaissance qui est la connaissance parfaite, qui est vraiment d'essence biblique, d'essence sémitique, pratique, concrète, expérimentale, et une connaissance qui est de caractère spéculatif, théorique, intellectuel, probablement utile dans beaucoup de domaines, plutôt de type hellénique ou hellénistique au départ, platonicien, aristotélicien, stoïcien, hein, et que les anciens comme saint Paul et les pères après essaient de situer sans s'en priver non plus complètement. Voilà, ce qu'on va trouver justement avec saint Basile. Alors, donc vous voyez, il y a quelque chose dans le processus de connaissance, pour conclure sur ce point, quelque chose qui est de caractère interactif, au fond, parce qu'on a cette expression à notre disposition. C'est une connaissance qui suppose le dialogue divino-humain, qui suppose l'alliance, qui suppose l'intervention de Dieu aux divers plans de la connaissance. Dieu ne nous laisse pas sur terre en disant voilà, je vous écris, vous vous débrouillez comme des grands, je reviendrai vous voir pour voir si vous avez bien travaillé. Non, Dieu intervient comme on le voit par la Bible, il n'arrête pas d'intervenir à tous les plans de l'histoire pour continuer à fournir des éléments dont on a besoin sous forme de révélation, d'idées, de vérification, comme un père, vous voyez. Un vrai père, il s'occupe de son enfant tout le temps. Il se met pas devant la télévision pendant que les enfants font leurs devoirs. Non, il lève là derrière eux et après d'eux, voir s'ils comprennent, s'ils ont bien compris la leçon, s'ils arrivent à la faire. Il laisse faire un petit peu tout seul, après ça il revient. Il faut voir ce que c'est que la paternité. Et la Bible, Dieu se manifeste comme paternité suprême dans le processus de connaissance. Alors, chez saint Basile, on y arrive. Chez saint Basile, c'est intéressant de voir quelle est sa méthode de connaissance. En fait, j'ai beau essayer de tenir tous les morceaux ensemble, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais donc, voilà, j'essaie de faire un petit peu un inventaire, disons, des différentes pistes. Je crois que je me sers principalement du traité du Saint-Esprit de Saint-Basile que je vous montre. Le livre que j'ai apporté est un très vieux monsieur qui a tout notre respect. Je l'ai apporté dans un plastique. Les gens ont cru que j'avais des croissants. Non, je n'ai pas des croissants, les enfants. C'est mon livre. Traité du Saint-Esprit de Saint-Basile. Et il a tout mon respect. Il a tout mon respect. Là, je l'ai apporté, je l'aime beaucoup. Et parce qu'il y a là-dedans, c'est une mine, c'est un trésor. Le traité du Saint-Esprit de Saint-Basile, je pense que c'est chef-d'œuvre. Enfin, je l'aime beaucoup. Les premiers thèmes, le premier point, je crois, qui est vraiment très important chez Saint-Basile et qui le rattache de très fort, de très près au courant biblique, au courant juif, sémitique, qui est basique pour nous, hein, c'est le thème ou l'idée de l'aspiration à connaître Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez l'être humain, mais qui n'est pas si fréquent. Et alors, dans le traité du Saint-Esprit, il s'adresse à son interlocuteur, qui est un évêque de l'époque, Amphiloque d'Iconium, et qui est le destinataire de ce livre. Et il dit ceci, il dit: « Je loue ton amour de la science, » je vais revenir sur les mots après, « ta solide sagesse qui te fait juger nécessaire de ne laisser passer sans l'examiner attentivement aucun des mots dont il faut bien se servir pour parler de Dieu. » Alors, ici, ce qui est mis en avant, oui, c'est que quelqu'un a une démarche de connaissance, mais qui est inspiré par l'amour de la vérité, l'amour de Dieu. C'est ça qui va être repris après, puisque derrière ça, il y a chez Saint Basile l'idée de déification. Cet amour pour la vérité de Dieu, c'est en fait ce qui conditionne notre progrès spirituel dans sa direction jusqu'à. Alors, il dit, je pense, son interlocuteur, que son but, c'est de trouver le vrai. Il lui dit: tu es une âme éprise de science et qui cherche la vérité pour se guérir de son ignorance, et comme c'est difficile à trouver des gens comme ça. Donc ici, vous voyez qu'il emploie aussi le mot ignorant dans le sens négatif. Agnia, c'est le même mot, c'est pas l'ignorance dans le sens de incompréhensibilité ou de. C'est pas dans le sens d'apophatisme théologique, dans le sens vraiment négatif, que l'ignorance est mauvais. Quelque chose qui est mauvais, ignorer Dieu, c'est une chose tout à fait anormale, contre nature. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui est très important. Si on avait le temps, on pourrait lire dans le traité du Saint-Esprit. C'est le premier chapitre. Il développe beaucoup ça, l'introduction à tout son livre. Ensuite, il y a un autre aspect très intéressant chez Saint-Basile, c'est la précision concernant les termes. L'ensemble du livre est consacré à cela. Il est consacré à travailler sur les mots très 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 précis, des particules grammaticales, des adverbes, des prépositions. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on critique souvent. Oui, ça, c'est bien les querelles byzantines, comme disent les Occidentaux. Et on passe des heures sur le mot avec, le mot par, le mot de, le mot. Dans le monde. Bon. Eh bien oui, pour Saint-Basile, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, cet amour de la vérité et cette démarche de connaissance, chez lui, se caractérise par ça, par une extraordinaire importance donnée au mot juste. Il faut savoir que Saint-Basile a été, avec d'autres, l'artisan des grands conciles œcuméniques de son temps. Hein. Les grandes controverses théologiques, elles portaient sur des mots très très précis. Le terme de homoousios pour dire consubstantialité du Père et du Fils, et le terme de homotimos pour désigner l'égalité d'honneur rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc c'était des mots extrêmement, extrêmement précis. Et les anciens se sont fatigués beaucoup, beaucoup, beaucoup à défendre la justesse des mots, et c'était pas en vain, parce que finalement il en allait du chemin de la connaissance. Vous voyez, il le dit justement, il parle beaucoup de cette exactitude technique. Vous voyez, on est quand même dans un registre un petit peu différent de tout à l'heure. C'est un travail intellectuel, oui, technique. Il dit: ne point entendre à la légère, en effet, la langue théologique, mais s'efforcer en chaque mot, en chaque syllabe, d'atteindre le sens caché. C'est le but de notre vocation, car il nous est proposé de ressembler à Dieu autant qu'il est possible à la nature humaine. Pas de ressemblance sans gnose. Alors ça, je vais revenir là-dessus, parce que c'est une question de terminologie. Pas de ressemblance sans gnose, et la gnose naît d'un enseignement. Or, la parole est au principe de tout enseignement, et la parole se compose de syllabes et de mots, de sorte qu'il n'est pas hors de propos de scruter les syllabes. Vous voyez, c'est cette attention aux mots, au langage, pour Saint-Basile, ça fait partie, en fait, de la démarche biblique, puisque notre religion est, au fond, une religion de la parole. Et alors ici, il emploie, justement, je m'y attarde un petit peu, il y a deux mots qu'il emploie, quand il dit « pas de ressemblance sans gnose », alors ici, les mots qui sont employés, c'est « homéosis », ça c'est pour la ressemblance, donc ça c'est tout à fait le thème biblique que vous connaissez, donc l'image, oui, mais en vue de la ressemblance étant donc l'accomplissement de l'image. Tous les pères n'ont pas insisté là-dessus de la même façon, mais chez, par exemple, Grégoire de Nice et Saint Basile insistent beaucoup là-dessus. Ils font vraiment de la ressemblance, ils en font vraiment un épanouissement profond, distinct et absolument supérieur à l'image elle-même. Et puis l'autre mot qu'il emploie, c'est le terme de gnosis. Alors c'est intéressant parce que lui, il emploie le terme de gnosis, mais dans un sens très, très positif. C'est le même mot que Saint Paul emploie dans un terme négatif. Chez Saint Basile, il a un sens au contraire éminemment positif. C'est vraiment de connaissance. Il dit que la connaissance est indispensable à la ressemblance. On ne peut pas avoir une vie spirituelle, on ne peut pas avoir une vie, cette vie en Christ, on ne peut pas évoluer chrétiennement si on n'a pas une démarche de connaissance, c'est-à-dire un intérêt pour la parole et l'exactitude de cette parole elle-même dans son vocabulaire le plus précis. Alors il dit après ça aussi, ceux qui sont introduits dans la gnose, il s'agit des catéchumènes, c'est très intéressant, c'est une bonne expression, c'est-à-dire que les sacrements chrétiens, et si je reprends la phrase de Saint Basile, ce sont des introductions dans la gnose. On entre dans la connaissance de Dieu, c'est une connaissance supérieure, on y entre par l'initiation sacramentelle, et principalement le baptême. Principalement le baptême, il pense presque toujours au baptême quand il parle de ça. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est l'entrée dans une voie de connaissance. On devient chrétien, nous demandons le baptême pour nos enfants, nous allons le demander. Pourquoi ? Pour qu'ils connaissent Dieu, pour qu'ils soient mis sur le chemin de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est quand même important, je le dis. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps des amis orthodoxes sociologiquement, et on leur disait, pourquoi est-ce que vous voulez baptiser votre enfant ? Ah, c'était pour protéger du diable, protéger des mauvaises influences. Bon, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir du sacrement une conception vraiment très très primitive, à la limite de la superstition, il n'y a plus aucun rapport avec ce que le grand christianisme a pensé. Pour les pères anciens, le baptême, c'était pas protéger les enfants du mauvais œil, c'était le mettre sur le chemin de la connaissance parfaite de la vérité, par l'Esprit Saint, etc. Donc ça c'est très très... Oui quand même. Alors ici le mot connaissance justement il est employé de manière intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance purement spéculative mais d'une connaissance qui passe par l'expérience sacramentelle. Donc on reste quand même dans le vécu, dans l'expérimental et dans le concret. Je regarde l'heure. Ça reste un quart d'heure. Bon. Et alors voilà. Ceux qui sont introduits dans la gnose ne doivent rien négliger. Parce que quiconque mépriserait comme infime les premiers éléments n'atteindrait jamais au fait de la sagesse. Ici, c'est le terme de Sophia qui est employé. Donc la sagesse, ici, apparaît comme le couronnement de la gnosis. La gnosis, c'est plus la démarche, la connaissance comme démarche, et la Sophia, c'est la connaissance comme connaissance accomplie. C'est-à-dire qu'en fait, Sophia a le sens de épignosis, de l'épignosis de Saint Paul. Ici, en tout cas ici, parce que la terminologie n'est pas... Après ça, qu'est-ce qu'il dit ? La même chose. Si un seul iota de la loi, un seul trait ne peuvent passer, vous savez que c'est le Christ qui dit ça dans l'Évangile, aurions-nous pris toutes nos sûretés si nous laissions de côté même les plus petites choses ? Hein ? Et il s'agit des prépositions. Par exemple, en ce qui concerne le Saint-Esprit, vous savez qu'on dit... il est issu ou jailli du Père, c'est le « ek » en grec. Et même, moi je me suis conclu à retravailler la traduction du symbole de foi de Nicée de Constantinople, un très 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 beau texte. En fait, il dit engendré du Père. ils n'ont pas engendré par le Père. Ek, ek patros genisenda. Donc c'est très intéressant ça, parce que traduire, comme on l'a partout, engendré par le Père avant les siècles, hein, ça introduit une notion de causalité. Comme si le Père était la cause et le Fils un effet. Alors que s'il est engendré du Père, ça veut dire qu'il sort de la source paternelle. Bon, là, je fais mon petit Saint-Basile, si vous voulez, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les mots ont une très 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 grande importance. Et de même, la traduction, dans ça, je dis ça, mais c'est vraiment entre nous, la traduction de ek parevsis par procession, c'est indéfendable comme traduction. Puisque on ne traduit pas par pro quelque chose un mot qui commence par ek. Ek porevomel, ça veut dire que c'est pas pro-cédé, ce serait ex-cédé éventuellement, vous voyez, mais donc ça veut dire qu'on a traduit n'importe comment. Mais on a perdu, dans le terme de procession, on a perdu l'idée de source qui est justement dans le ek de ek porevsis. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec du grec, mais enfin, c'est pour vous dire que moi, je suis très 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 d'accord avec Saint-Basile, que vous le voyez, que ces petits mots-là, on ferait bien dans nos traductions de les suivre, hein, pour ne pas perdre le sens. Des textes, quand même. Bon, voilà. Alors, je vais peut-être terminer là-dessus, puisque je vois que encore on a un quart d'heure. Bon. Mais vous voyez, c'est ça, en fait, que Saint-Basile applique, il se justifie dans son exactitude terminologique, hein, il se justifie par l'enseignement même du Christ, l'exactitude rabbinique, disons, qui est celle du Christ et de Saint-Paul par rapport au texte de la loi. Et pas de raison qu'on soit moins. Scrupuleux que les rabbins, plus que les rabbins l'ont été, vous voyez, c'est pas du formalisme, c'est l'amour de la vérité. Alors, donc, on a des chapitres, tout le chapitre 5, par exemple, du traité du Saint-Esprit, est consacré aux expressions de qui et par qui, et qui est un commentaire, en fait, du texte de Saint-Paul. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient tout, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout est. Alors, c'est un commentaire extrêmement développé de ces deux termes-là. Mais ce que je veux vous dire pour avancer dans ce chapitre, c'est que ça va dire, dans le traité du Saint-Esprit, il y a des passages innombrables qui sont presque que ça, des analyses de termes, vraiment d'une technicité impressionnante. C'est vraiment des gens très très forts, très très, très bons en grec, Saint-Basile. Je vous étonnera pas parce qu'il le parlait couramment. Bon, mais après ça, il y a des développements. J'ai vraiment envie de vous en lire un peu si j'arrive à ouvrir mon vieux monsieur de livre. Des développements qui sont des développements très très beaux, avec tout ce lyrisme théologique qu'on attend. Par exemple, dans le chapitre. Là, il y a deux chapitres qui sont vraiment très intéressants dans le traité du Saint-Esprit, c'est le chapitre 9 et le chapitre 19, où Saint-Basile arrête de pinailler sur des petits mots comme ça, et il prend son essor, et on a des très 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 belles pages. Le Saint-Esprit, alors, il parle des termes bibliques qui sont esprit de Dieu, esprit de la vérité qui procède du Père, esprit sans détour, esprit qui régit, esprit Dieu est esprit, enfin toutes sortes d'expressions qu'il trouve dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien d'ailleurs. Et après ça, à propos de l'esprit, vers lui, vers l'Esprit Saint se tournent tous ceux qui ont besoin de sanctification. Vers lui s'élance le désir de tous ceux qui vivent selon la vertu et qui sont comme rafraîchis par son souffle, secourus dans la poursuite de la fin conforme à leur nature. La fin, la conforme à la nature, c'est la ressemblance avec Dieu. Capable de parfaire les autres, lui-même ne manque de rien. Il s'agit du Saint-Esprit. Non pas vivant qui doit refaire ses forces, mais corrège de la vie. Ça, c'est l'expression que nous avons dans la prière. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui remplis tout, trésor des biens, et on traduit donateur de vie. Ce qui veut rien dire à cet endroit-là, c'est Zoïs Rodigos. Et qu'est-ce que c'est qu'un corège? Il a très bien traduit le monsieur ici. Le corège de la vie, le corège, c'est le chef de cœur. Corigos en grec, c'est celui qui dirige le cœur. Alors dans l'Antiquité, c'était Apollon. Apollon, c'est un monsieur charmant, tout le monde l'aime beaucoup. Apollon, il dirigeait le cœur des nymphes. Donc il était le Rodégos ton nymphon, je ne sais pas comment se dit en grec exactement. Mais l'Esprit Saint a reçu ce nom-là, il est le corège de la vie. Et c'est cette expérience. On devrait traduire, voulez-vous une bonne traduction? Roi céleste, consolateur, ça va? Roi céleste, consolateur. Souffle de la révélation, non pas esprit de vérité, souffle de la révélation. Panev Matistaliti, souffle de la révélation, s'il vous plaît. Toi qui es partout présent, ça va, au Pantacoparon, et qui remplit tout, bon non, qui accomplit tout, ta Pandapiron, c'est qui accomplit tout, qui parfait tout, non, 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 pas qui remplit tout, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Et après ça, toi qui es partout, qui remplit tout, trésor des biens, ça va, Tisavro ton agathon, ça va encore, et corège de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous, et non pas sauve nos âmes, qui veut rien dire en français, en grec, comme on disait, mais sauve-nous. Toi qui es, non pas bonté, que tu as fait un abstrait, mais bon, bon, agathos, toi qui es bon. Mais, donc cette expression-là, vous voyez, elle est vraiment très très belle. Donc si je continue, c'est pour vous montrer le côté, la beauté de la théologie Saint-Basile. C'est pas que du pinaillage, vous voyez. Il y a un autre texte dans le chapitre 19, et je m'arrêterai là, 17, 18, 19. Ah oui, c'est intéressant aussi ça. On l'appelle esprit comme Dieu est esprit. La créature en effet reçoit la sanctification d'ailleurs, mais pour l'esprit, la sainteté est l'élément essentiel de sa nature. Aussi n'est-il pas sanctifié, mais sanctifiant. On le nomme bon, comme le Père est bon. Et bon, celui qui est né du Père, bon. Il a la bonté pour essence. Il est sans détour, comme est sans détour le Seigneur Dieu, car il est lui-même vérité et justice, et ne saurait ni dévier, ni fléchir, en raison de l'immutabilité de sa nature. Il est appelé Paraclet, comme le Monogène, selon la parole de ce dernier. Je prierai mon Père, il vous enverra un autre Paraclet. Ainsi, les noms qui se rapportent au Père et au Fils sont-ils communs à l'Esprit, qui reçoit ces diverses appellations en raison de son intimité de nature avec le Père et le Fils, car d'où lui viendrait-elle autrement? Quelles sont ces opérations d'une inexprimable grandeur? Arreti mendiato megethos, c'est impossible, indicible grandeur, elles sont multiples, innombrables. Comment concevoir ce qui est antérieur au siècle? Quelles étaient ses opérations avant que fût la créature intellectuelle, le nombre de ses bienfaits à l'égard des créatures, sa puissance par rapport au siècle à venir, car il était et il préexistait et il était présent avant les siècles avec le Père et le Fils. Si tu concevais, alors c'est noéo en grec, oste kanti noisis, si tu concevais par conséquent quelque chose au-delà des siècles, tu la trouverais postérieure à l'esprit. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, voilà, je conclue là-dessus, il y a une notion très intéressante chez Saint-Basile, il dit au fond le vrai nom de l'Esprit-Saint, on se pose souvent la question, il dit, mais comment est-ce qu'il s'appelle l'Esprit? Parce que l'Esprit, c'est pas un nom. Hein. Eh bien, c'est crème. crème, C-H-E, hein, c'est pas là. Chrisma, onction. Il dit que c'est ça, dans le nom donc, je dis ça pour vous montrer que chez Saint Basile, la théologie qui se nourrit quand même de tout ce que j'ai dit précédemment sur le fond biblique, elle devient une théologie extrêmement pointue dans le domaine du langage, du vocabulaire, et jusqu'à trouver donc un mot. Comment est-ce qu'on va appeler l'esprit? Bien, quel est son nom? Eh bien, il est l'onction, chrisma. Oui, parce que c'est chrisma, c'est ce qui fait chrisos, l'onction qui fait loin. Donc, l'esprit, le Christ est le Christ, mais l'esprit est l'onction de ce Christ. Vous voyez. Voilà, je crois que c'est le temps de 53. Donc, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, comme on dit souvent. J'ai fait un repérage un peu du vocabulaire de la connaissance, tous les passages. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, sur le thème de gnose, c'est très intéressant. Et il y a quatre mots importants chez Saint-Basile du point de vue de la gnoséologie. Le terme de gnosis, très 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 développé. Le terme de théologie, théologia, ce qu'on peut dire sur Dieu ou de Dieu. Et le terme de contemplation, theoria. Et le terme de logos, qui est un peu plus banal. Et contemplation et gnose, ça c'est vraiment très très important. Peut-être que je reviendrai, quoique je ne trouve pas une très bonne méthode de refaire les mêmes choses d'une fois sur l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre. Oui, de votre indulgence avec mes plaisanteries stupides. Alors, question, en ce qui concerne le formalisme, ne peut-on pas ajouter qu'il est important en général de ne pas juger telle ou telle personne uniquement sur les apparences et d'affirmer, bien qu'elle ait une démarche spirituelle, qu'elle ne connaît pas ou ignore Dieu parce qu'elle ne fait pas ou ne s'exprime pas de manière formelle comme on le conçoit. Car il y a l'approche du juste, mais différente sans être en contradiction et sans être contraire aux croyants de l'Église. Oui, on est d'accord, je ne disais pas le contraire. Je ne comprends pas tout ce que je dis. Non, mais je parlais de moi, je disais que moi, c'est moi qui faisais le signe de croix tout à l'heure. Je ne parlais pas des autres, je n'ai jugé personne, je me suis jugé moi-même. Et je sais par expérience ce que c'est que d'être dans le formalisme. Nombre de fois, parce que comme je dis beaucoup les offices de l'Église, nombre de fois, je me surprends à lire les paroles dans l'ignorance de Dieu. Cela dit, voilà, ça, je l'ai pas dit, c'est pas ce que disent les personnes non plus, je pense que le formalisme est très important. C'est quand même un garde-fou, et heureusement qu'on a le formalisme quelquefois. Et quand on n'a même plus le formalisme, on n'a plus rien du tout. Un bon formalisme juif ou orthodoxe, ça fait qu'on garde quand même les habitudes, et puis le jour où vient quelqu'un qui sait pourquoi on le fait, c'est bien. Plutôt, parce que l'autre système occidental, c'est de se débarrasser des choses qu'on ne comprend pas. Alors ça, c'est catastrophique. Hein. C'est comme ça qu'on est arrivé en Occident à l'état de la religion de nos amis catholiques. On met à la poubelle tout ce qu'on ne comprend pas. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Vous avez vu les offices, pite, comme ça, tout petit. Alors les orthodoxes, ils disent, on ne comprend pas, mais on le fait quand même. On verra bien. Eh bien, quelqu'un qui nous dira ce que ça veut dire. Ça, c'est très sage. Et c'est très juif, ça aussi. Le juif fait toujours ce qu'il faut faire. Le Shabbat, il fait le Shabbat. Même s'il ne comprend pas, il le fait. S'il vient un rabbin qui lui dit, mon fils, tu ne sais pas ce que tu fais, je vais t'expliquer, il sera très content. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content parce que j'ai réussi à faire marcher mon magnétophone. Donc, passez une bonne soirée.